dit, il y avait deux, trois témoins, les corps des ressuscités ne sont pas des corps. Un corps n'est pas un corps. Ils n'ont pas de matière. Ah bon? C'est de la lumière. Ah bon? Mais déjà, la lumière, c'est de la matière, hein, au cas où vous ne sauriez pas. C'est des, comment dire, la source de lumière perd des photons. C'est la décomposition de la matière, hein, la lumière. Hein. Ce sont des milliards de billes qui rebondissent. Quand vous avez un livre qui est au soleil pendant des années, hein, eh bien, il est percuté par de la matière et il change de, et la surface change de couleur. Mais c'est la lumière, c'est de la matière. Et c'est ça qui percute notre, comment dire, notre rétine, et qui fait les couleurs à cause des longueurs d'onde, qui fait les trois dimensions, et c'est le nerf optique qui met en codage électrique les longueurs d'onde des photons. Eh bien, voyez-vous, donc, il dit lumineux au moins, oui, façon de parler. Ah oui. Et Jésus, quand il apparaît le jour de Pâques, il dit qu'il a de la chair et des os comme les esprits n'en ont pas. Ah, il commence à... Et l'Église enseigne que les corps des ressuscités, ce seront de vrais corps, avec de vrais atomes, avec du calcium. Ah oui, les os, il y a du calcium, avec du fer. Dieu va nous refaire du sang. On ne sera pas des squelettes avec de la peau sur les os. Donc il y aura de l'oxygène, de l'hydrogène, c'est amusant. Hein. Oui, non, tout le monde aura un corps. Corps glorieux pour ceux qui aiment Dieu et qui vivent avec Dieu, et corps ténébreux pour les damnés, avec la particularité qu'ils brûleront sans se consumer. Mais comme il y aura des nerfs, c'est-à-dire que déjà, les démons et les damnés, comme pur esprit, sont en contact de la combustion de la matière qu'on appelle le feu. Un vrai feu physique et réel, qu'on situe sous la terre, dans le magma terrestre. Donc ça, c'est chaud. Et d'ailleurs, les démons sont humiliés d'être... au contact de cette matière et de ressentir la chaleur. Car un esprit angélique n'a pas été fait pour ça. Tandis que nous avons un esprit qui est créé pour entrer en symbiose avec de la matière. Vous voyez ? Mon âme humaine a été créée pour animer ce corps. Vous voyez ? Et pour aimer, hein, mais aussi pour animer ce corps. Vous voyez ? Donc, il y a une convenance naturelle parfaite à ce qu'une âme humaine soit au contact avec de la matière, avec des nerfs, avec des muscles. Regardez. Eh bien, à la résurrection des morts, les damnés, c'est pas seulement leur âme qui sera au contact avec le feu, c'est leur nouveau corps aussi qui sera au contact avec le feu. Vous voyez ? Donc avec des nerfs, de la peau, des yeux, des cheveux. Alors ça brûle, ça se refait, ça doit être très particulier. Le corps n'étant pas consumé, ne pouvant pas se consumer, les corps ténébreux se brûlent sans se consumer. N'allez pas en enfer. Oui.
Pire condamnation à l'enfer, c'est la damnation, c'est pas les tortures, etc.
Comment ?
On m'a dit que ce qu'il y avait de pire en enfer, c'était...
De haïr Dieu.
Oui.
Oui, mais il y a une peine secondaire qui est d'être cramé, brûlé vif.
D'accord.
Oh, c'est sans doute pas celle qui nous fait le plus peur. Ce qui nous fait le plus peur, c'est d'être plein de haine, sans doute, actuellement. Oui. C'est ça qui nous empêche de nous damner. Oh, je serais tellement méchant. Ah, oh, j'aurais tellement de haine vis-à-vis de Dieu et de mon prochain. Ça sera atroce, j'aurais l'âme déchirée. Que je sois brûlé vif, oh, ce n'est rien. Voilà. Mais vu l'intelligence divine, il a dû prévoir que ça nous motiverait aussi. Vous voyez ? Et d'avoir perdu cette deuxième motivation, eh bien, les prédications ont perdu de leur piquant. Mais c'est pas parce que c'est secondaire, et ce n'est pas parce que on se dit que c'est vulgaire même, quoi, moi, me convertir de mes péchés, de mes faiblesses, de mes jalousies, de mon égoïsme, de mon orgueil, uniquement parce que j'ai peur du feu, mais c'est très bon. C'est ce qu'on appelle le début de la sagesse. C'est le coup de pied. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais la crainte servile, voyez, c'est par exemple, il y a Dieu qui est là et qui dit, la France est un beau pays. J'y ai envoyé des missionnaires. J'ai envoyé les saintes femmes, les saintes Marie de la Mer. Et ça fait des siècles et tout. Et puis, il y a quand même des atteintes à mon amour depuis quelques siècles. Il y a eu les ténèbres, les lumières, pardon. Et donc, il y a eu le rationalisme qui méprise toute intelligence et toute morale. Des scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas, alors que le scientifique, lui, ne voit que des lois pleines d'intelligence, aussi bien dans les mathématiques que dans le corps humain, ou que dans les lois naturelles sont incroyablement intelligentes. Eh bien, voyez-vous, quand un scientifique est croyant, il est très heureux, parce que c'est logique. Eh bien, voyez-vous, il se dit, Jésus, c'est-à-dire, mais les prêtres parisiens sont pleins de foi, pleins d'entrain, ils proposent la foi, ils sont fiers de leur sacerdoce, ils poussent les âmes à croire que je me suis fait homme et que je suis mort pour eux par amour, ils font aimer ma mère, ils vont convaincre les juifs que je suis leur messie et que je les aime. Ils vont convaincre les musulmans qu'il n'y a pas que l'existence de Dieu, mais qu'il y a aussi l'amour de Dieu, qu'il y a un amour qui va jusqu'à l'incarnation et l'union de la nature divine à une pauvre nature humaine par pur amour, et que ce n'est pas indigne de la part de Dieu d'être allé jusque-là. Et ce clergé est merveilleux. Et ils vont dans les banlieues, ils vont dans les quartiers musulmans pour leur dire Dieu est amour et il s'est fait homme. Tous les jours, vous avez des missionnaires qui partent à la goutte d'or pour ça. Ah. Oui. Eh bien, voyez-vous, il se dit, bon, mon clergé n'est pas fier de moi, il célèbre uniquement pour ceux qui sont culturellement chrétiens. Ben, comme symbole culturel, il y a cette magnifique cathédrale photographiée par les Chinois. Eh bien, je vais demander à ma maman. Et là, il va voir la Vierge Marie et il lui dit, voilà, j'ai décidé de frapper mes prêtres et les baptiser de Paris. Et là, la Vierge Marie, qui a une vieille habitude de son fils, il dit, et ça va se passer comment ? Ma chère mère, je sais très bien que la cathédrale de Paris vous est consacrée. Oui, mon fils, tout à fait, mais derrière vous, parce que c'est vous qui êtes l'essentiel de la présence dans cette maison qui est la porte du ciel. Me permettriez-vous de la brûler ? Grand silence. Vous avez Gabriel qui passe. Saint-Michel, lui, un petit sourire quand même, parce que en matière de punition, il aime mieux. Vous voyez, il dit, à quoi ça sert de me représenter avec une épée? J'ai l'air d'un charlot depuis des siècles. Vous voyez. À Fatima, on m'a bien... Enfin, je pense que c'est peut-être Saint-Michel. Pénitence, 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 avec un glaive de feu. Ça devait pas être Gabriel, hein. ni Raphaël. Et voilà. Et la Vierge Marie, vous voyez, trêve de plaisanterie, la Vierge Marie n'a pas trouvé les arguments. Parce que Jésus était vraiment dit, il leur faut ça. Eh bien, voyez-vous, à la résurrection des morts, les damnés récupéreront un corps qui sera brûlé vif, avec la peau, le sang, les nerfs, les muscles. Ça va être une concurrence éternelle entre le feu et leur matière. Vous voyez, ça, comme des poutres de chêne dans les combles de Notre-Dame. Vous voyez, difficile à brûler. Mais ça a brûlé quand même. Eh bien, voyez-vous, tout cela, il est à peine besoin de mentionner les adversaires modernes de la résurrection. C'est-à-dire qu'à l'époque, voyez-vous, en 1936, on n'imaginait pas un seul instant que quelqu'un nie la résurrection des corps. Et le prêtre avec qui j'avais discuté, on discutait encore, j'ai dit, mais vous savez, c'est pas dans une conversation à table comme ça que je vais perdre la foi pour vous faire plaisir. Sous-entendu, vous mettez la pression sur moi, vous voulez absolument que j'admette que les corps ne ressuscitent pas, que les corps des ressuscités ne sont pas composés d'atomes et de matière. Et moi je vous dis que Jésus est ressuscité avec des os, de la chair et des os comme les esprits n'en ont pas, et vous n'allez pas me faire perdre la foi pour une conversation à table. Vous vous rendez compte? Là, je me suis défendu. À un moment donné, j'étais acculé, si vous voulez, et là, je lui ai dit, vous n'allez pas me faire perdre la foi. J'étais en train de lui dire que lui, il avait perdu, et qu'il n'allait pas me la faire perdre par politesse, parce qu'on était en train de discuter entre prêtres à table. Vous voyez. Même pour lui faire plaisir, j'ai pas atténué ce que je vais vous dire. La résurrection de la chair a été rejetée par les rationalistes de tous les temps. C'est ridicule. Les corps ne ressuscitent pas. D'ailleurs, autant faire brûler les corps. L'Église tolère la crémation depuis le code de 1983 pour des raisons économiques. Comme on a brûlé les corps pour les pestes, comme on a brûlé les corps qu'on ne pouvait pas transporter, l'Église catholique n'est pas superstitieuse, on peut brûler un corps s'il le faut. Mais l'Église catholique préfère que le corps soit mis en terre et qu'on respecte le corps humain. Et donc, lorsque dans une religion on brûle les corps parce qu'on estime qu'il n'y aura pas de résurrection, dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, je pense que on est pur esprit et après on part dans tous les coins. Non, vous voyez, c'est une des marques de la foi, de la vraie religion, de ne pas brûler le corps. C'est un mal de brûler le corps en pensant que jamais il ne ressuscitera, puisque c'est faux. Vous voyez. Alors c'est peut-être pas l'essentiel, vous avez peut-être des bouddhistes qui sont, comment dire, dans l'ignorance qu'ils sont de la vraie religion et de la révélation, qui sont très intègres et qui sont peut-être qui prient. Parce que vous avez, le bouddhisme est théoriquement une philosophie qui vous fait ne plus exister, ne plus penser, ne plus exister, ne plus être. Mais les peuples bouddhistes sont déistes à fond. Ils ont divinisé Bouddha depuis longtemps. Ils font des pèlerinages, ils font plein de choses pour Bouddha. Ils le prient, lui demandent des grâces et tout. Contrairement aux cadres occidentaux qui veulent se vider l'esprit pour pas avoir un burn-out. C'est le vrai bouddhisme. Enfin, le bouddhisme local, Bouddha part du palais de son père, puisque c'est un prince, hein, Bouddha, aidé par les petits esprits qui rendent les pas des chevaux silencieux. Donc, nous, on ne brûle pas les corps par respect pour le corps. Et dans la pensée de la résurrection. Mais vous allez me dire, le bon Dieu, il fait en sorte aussi quand même que des gens meurent dans des incendies. Donc il permet que le corps soit réduit en cendres. Sainte Jeanne d'Arc, elle a été brûlée. Et en plus, par des curés, par un évêque. Vous avez les gens qui meurent dans l'eau. L'eau dissout petit à petit les eaux. Eh bien, Dieu, lui, des restes de notre corps, il ne va pas ressusciter les globules rouges et les globules blancs, ni la flore intestinale d'origine. Ah, il y a cette bactérie, quand même, je l'aimais bien. Vous voyez ? Mais, ah, mais parmi quoi ? Parmi les 3 milliards d'amibes que j'avais, il y en a une, j'aurais aimé qu'elle soit aussi là dans mon ventre à la résurrection des morts. Non. Il n'empêche que, quand Jésus ressuscite, il a un vrai corps humain, c'est-à-dire qu'il a un véritable estomac. Il a une flore intestinale. Il a un vrai corps. Et il mange d'ailleurs. Et alors pour ceux qui sont très intéressés, il y a dans l'Apocalypse un passage un peu bizarre. On parle de l'Apocalypse d'ailleurs dans les évangiles où il dit « Je ne boirai plus du vin jusqu'au festin des noces éternelles, du fruit de la vigne. » Ça veut dire que dans la vie éternelle, bien qu'il n'y ait plus d'union sexuelle et d'union conjugale des corps, peut-être qu'on va boire du vin. Alors il y en a qui disent « Voilà, c'est marqué. » Preuve, dans l'Ancien Testament, la pensée de la résurrection corporelle suit l'évolution de la connaissance de la fin des temps dont nous avons parlé, et nous parlerons mardi prochain, et n'apparaît qu'assez tard. Dans la foi mosaïque, le peuple tout entier est d'abord considéré comme un individu. Israël sera de nouveau sauvé de la mort et de l'exil, et sera conduit vers une nouvelle vie politique et religieuse, mais plutôt terrestre. C'est une grande espérance communautaire. Hein, la foi mosaïque aussi. Mais c'est bien sûr aussi une foi du bonheur personnel et spirituel. Hein, il ne faut pas exagérer. Mais on trouve un témoignage précis de la résurrection dans le second livre des Maccabées. C'est un livre de la Bible, hein, les Maccabées. Ça a donné des morts, mais en fait, c'est Maccabées, c'est par transposition de coutumes, de mots utilisés qu'on dit c'est un cadavre, c'est un Maccabée. En fait, c'est le livre des Maccabées parce qu'il y a de nombreux morts dans ce livre à cause des guerres. La manière dont on conçoit cette résurrection est encore au début très réaliste. On croit sans doute à une identité non modifiée. Néanmoins, le fait est attesté sans aucun doute. Mais il semble qu'on ne croit qu'à une résurrection des justes, car on la refuse à Antiochus Épiphane, qui est un persécuteur du peuple juif. Le livre de la Sagesse mentionne, il est vrai, la double sanction, mais ne parle pas de la résurrection de la chair. La mort de l'âme, la mort corporelle et la mort de l'âme. Au temps de Jésus, la plus grande partie des juifs, pharisiens et peuples, croyaient à ce dogme qui n'était rejeté que par certains, la caste sacerdotale de certains prêtres du temple de Jérusalem, les Sadducéens. Donc en croyant à la résurrection des corps. Dans le livre de Job, chapitre 19, versets 25-27, il y a une traduction du latin, mais qui n'est pas dans l'hébreu. C'est « Je verrai » hein, le « Je verrai le Seigneur à travers mes yeux de chair ». Vous voyez ? Mais c'est pas dans l'hébreu. Mais c'est dans le latin. Et dans un latin qui a été lu et enseigné à travers les siècles. Donc si Dieu providentiellement a permis que dans le livre de Job, il y ait une mention très directe de la vision de Dieu à travers des yeux de chair, c'est une permission divine, même si c'est une erreur de traduction de l'hébreu au latin. Pourquoi ? Mais parce que le texte latin donc est enseigné. Alors, je passe. Là, il est vraiment très précis, c'est de la théologie. Jésus, ayant trouvé cette croyance dans son peuple, n'y a pas insisté d'une manière spéciale. Il s'est contenté de spiritualiser la conception grossière qui régnait autour de lui en disant que les fils de la résurrection seront semblables aux anges. À ce sujet, il prouve la résurrection sur le passage de l'Écriture où il est dit que Dieu est le Dieu des patriarches qui par conséquent devait vivre encore, car il n'est pas le Dieu des morts. Quand les Sadducéens disent « Mais est-ce qu'on vraiment va ressusciter? Est-ce qu'on aura vraiment un vrai corps ?» Et ils donnent l'objection de cette femme qui a été mariée 7 fois. Alors elle aura 7 maris. Et Jésus lui leur dit « D'abord, les morts, les ressuscités ne seront pas mariés. Ils seront comme les anges de Dieu. » Vie spirituelle uniquement, pas vie corporelle. Alors, est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va boire à la fin des temps, après? Est-ce qu'on pourra à nouveau boire un peu? Enfin, on sera sur la surface de la terre, on aura des vrais corps. La terre sera réornée. Mais alors, on verra des fontaines, tout ça, des plantes, des fleurs, des paysages. On va pas être quand même sur une terre brûlée. Est-ce qu'il y aura des animaux? Est-ce qu'il y aura des insectes? Est-ce qu'il y aura des fleurs? Est-ce qu'on mangera? Est-ce qu'on va boire? Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de commerce sexuel. Ça vexe énormément dans le Coran l'affirmation. Ben non. Ah, bon. Mais est-ce qu'on mangera? Et Jésus dit... Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il n'est pas le Dieu des morts. Donc ça veut dire qu'Isaac, Abraham, Isaac et Jacob vont retrouver un corps. Ils seront vivants, au sens propre du terme. Dans l'évangile de Saint Jean, on distingue une double résurrection. Une résurrection spirituelle qui a lieu maintenant, pour ceux qui écoutent la prédication de Jésus, et une résurrection corporelle à la fin du monde. La dernière est opérée par le Christ lui-même. Il la promet à ceux qui mangeront sa chair et boiront son sang. Mais les bons et les mauvais ressusciteront. Il y a une résurrection de vie et une résurrection de jugement. Saint Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Saint Luc chapitre 14 et chapitre 20. Vous voyez, c'est la résurrection, au moins des justes. Les apôtres affirment la résurrection pour un double motif. D'abord, parce qu'elle s'est déjà réalisée dans le Christ, et parce que la foi à la résurrection est ce qui distingue surtout le christianisme du paganisme. C'est pourquoi aussi on trouve la plupart des témoignages de ce dogme chez saint Paul. Il enseigne le fait de la résurrection. La quantité des textes nous montre déjà l'importance que l'apôtre attache à la résurrection corporelle. Plus que tout autre auteur biblique, il décrit ainsi le mode de la résurrection ou la nature du corps ressuscité. Saint Jean parle dans l'Apocalypse d'une première résurrection des justes, mais il signale aussi la résurrection générale. Les autres apôtres ne parlent pas expressément de la résurrection, soit qu'ils la considèrent comme partiellement incluse dans leur notion de la vie éternelle, soit qu'ils puissent la supposer connue. Les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers successeurs des apôtres, ont toujours enseigné la résurrection. Vous avez Origène, qui vivait dans les années 200, qui a eu des considérations très spirituelles, mais qui était hérétique sur plusieurs points. Dont un qui était que l'enfer allait disparaître et que les damnés allaient aimer Dieu à un moment donné et les démons aussi. Bon. Mais aussi, il niait le caractère matériel du corps ressuscité. Et il disait que ça serait des corps éthérés. Vous savez ce que c'est que l'éther ? On n'utilise plus beaucoup l'éther. Vous pouvez en acheter encore de l'éther en pharmacie, je crois. Si, si. Comment? C'est sur ordonnance. Parce que... Oh, voilà. Et donc l'éther, c'est un solvant extraordinaire pour tout ce qui est autocollant, n'est-ce pas? Je l'ai jamais utilisé que comme ça. On peut l'utiliser pour désinfecter, paraît-il, mais bon. Et donc l'éther, c'est un liquide qui devient gazeux, qui passe à l'état gazeux, mais très facilement. Et quand vous avez ce liquide sur la peau, vous avez une sensation de fraîcheur. Parce que il se volatilise. Il y a un terme particulier pour passer du solide au gazeux, qui est la sublimation. Sublimation. Mais c'est quand même pas solide, hein, l'éther. Un corps éthéré, ça veut dire c'est du gaz, quoi. Non. Saint Augustin lui aussi eut à parler de la résurrection. Tout le monde sait que la résurrection est particulièrement signalée dans la peinture chrétienne primitive. Noé sauvé du déluge, Isaac sauvé par l'ange sur le mont Moria, les trois jeunes gens dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions, Suzanne devant les faux témoins, Jonas dans le ventre du poisson, Lazare ressuscité par le Christ, sont les images qui devaient montrer aux chrétiens des catacombes la victoire emportée sur la mort par la puissance divine et raviver leur espérance de la résurrection. Dans le séjour même de la mort, le cimetière. Ces motifs sont sans cesse répétés et s'achevaient par la montée d'Élie au ciel. La nature du corps, les prérogatives des corps glorieux, Saint Thomas fit appel surtout à des arguments de raison. Le corps fait partie de l'unité de l'homme. Sans lui, l'homme n'est pas un homme. C'est une âme. Je suis désolé, hein. Une âme qui sort du corps, ce qu'on appelle les âmes séparées, sont pas des êtres humains. Ah oui, mais enfin, alors, quand je parle à ma grand-mère, elle m'écoute, Dieu lui permet de m'écouter, de m'entendre, elle prie pour moi. C'est plus une femme au sens propre, elle n'a pas son corps, mais c'est une âme de femme, ou c'est une âme d'homme, marquée par son corps, par son tempérament. C'est notre histoire avec notre corps qui fait les élans de notre âme. Saint Paul a dû garder son caractère. Sainte Monique a dû garder son caractère, même s'ils n'ont pas leur corps actuellement. Mais le corps fait partie de notre histoire. Une séparation éternelle du corps et de l'âme serait contre nature. Notre nature humaine. Vous vous aimez bien? Vous vous coiffez le matin? Oui ou non? Vous vous lavez? Oui. Quand vous êtes coupé, vous mettez des microbes sur la blessure pour que ça... Vous voulez que ça se referme. Vous aimez votre corps? Vous voyez? Alors bien sûr, quand on a un corps très malade, on l'aime moins. Vous voyez? Qui nous fait souffrir. Mais je suis désolé, pendant de nombreuses années, on aime notre corps. On fait attention à notre corps. On le soigne. On l'empêche... d'avoir de la gangrène. On l'empêche de s'infecter. C'est la nature humaine. Vous voyez, excusez-moi, là, vous allez me dire, mais c'est plus de la philosophie, tout ça. Mais c'est la vraie philosophie et la vérité religieuse s'unissent. C'est pourquoi l'âme sans le corps ne peut être vraiment heureuse. Oh, c'est joli, hein, c'est saint Thomas d'Aquin. Ouf. L'âme sans le corps ne peut pas être vraiment heureuse. Et par suite, la résurrection est d'une certaine manière naturelle. Elle est convenable. Ça convient, la résurrection des corps. Elle est attendue par notre nature. C'est beau, ça, non? Vous ne trouvez pas? Elle est naturelle en tant qu'exigence de la nature humaine, souhait de notre nature. Vous voyez? Elle est surnaturelle en tant qu'elle est opérée par la toute-puissance de Dieu. Nous, on n'arrive pas. Hein. Vous avez les grands philosophes d'Athènes qui sont là, Saint Paul leur dit, je viens vous annoncer le vrai Dieu, puisque vous avez des statues partout, au Dieu de la pluie, au Dieu des aborigènes, au Dieu de ceci, au Dieu de cela. Et là vous avez même une statue au Dieu inconnu. Eh bien, je vous dis, le Dieu inconnu, c'est le vrai Dieu, celui qui donne l'être, celui qui vous fait bouger, marcher, penser. Et il nous a donné son Fils, Jésus, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Que Dieu existe pour les Grecs, c'est évident. Il n'y a pas d'effet sans cause. Mais que les morts ressuscitent, non, ils sont dans les Champs-Élysées, ou ils sont en enfer dans le Tartare, mais on ne reprend pas. Ce sont des fantômes qui sont dans les Champs-Élysées. Ce sont des fantômes qui sont dans les enfers. Vous voyez ? Mais il les représente, hein, mais c'est pas des vrais corps. Saint Thomas dit, en s'appuyant sur Saint Denis, les hiérarchies célestes. Ah, ils sont vaches. C'est pas traduit. Ut qualibet causa primo operetur in id quod est sibi propinquius, et per id operetur in alia magis remota. Et ideo verbum Dei, primo attribuit vitam immortalem corpori naturiditer unito, et per ipsum operatur resurrectionem omnibus aliis. Voilà. Hein? Donc, ce qui veut dire que les causes agissent d'abord par ce qui est plus proche et ensuite par ce qui est plus éloigné. Vous voyez? Le feu brûle d'abord ce qui est devant lui et après ce qui est après lui. Vous voyez? Et au risque de vous décevoir en tant que complotiste, il y avait 50 à 70 cm de poussière sur toute la voûte de Notre-Dame. Que ça soit un attentat avec un briquet ou que ça soit une négligence avec un mégot ou avec une étincelle, je ne pense pas qu'il y a eu du carburant parce que, si vous voulez, le feu a pris quand même son temps et beaucoup de poutres de chêne n'ont pas brûlé et sont par terre ou en haut. Mais par contre, vous avez 100 mètres de poussière de 50 à 70 cm d'épaisseur qui ont fait cette fumée très dense au début et qui ont brûlé, fait fondre le plomb et brûlé aussi les poutres. Donc le feu brûle d'abord ce qui est près de lui et ensuite ce qui est plus loin. Les causes agissent sur ce qui est proche, proxima, ensuite ce qui est éloigné, remota. Eh bien, voyez-vous, Jésus se ressuscite. C'est la Sainte Trinité qui ressuscite la nature humaine de Jésus. C'est pas seulement le Père, c'est aussi Jésus. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui ressuscite la nature humaine de Jésus. On refait son corps et on remet l'âme dedans. Le corps n'était pas décomposé. Il s'est pas pourri, le corps de Jésus. Mais il était très abîmé. Vous aviez sans doute des côtes fêlées, des os peut-être même abîmés, la peau était très abîmée, la flagellation, les coups de bâton dans la tête. Jésus n'a pas gardé les trous dans son cuir chevelu par les épines, son visage tuméfié, la lymphe qui s'était répandue partout pour essayer de réparer les coups, et il était mort entre-temps, et la peau lacérée, il n'a gardé que les traces des clous et le coup de lance. A-t-il gardé une blessure sur l'épaule? En tout cas, le Padre Pio l'avait. C'est avéré ce que je vous dis, hein. Le Padre Pio avait une 6e plaie. La plaie de l'épaule. Et quand on changeait les vêtements du Padre Pio, il y avait toujours du sang à l'arrière, sur les épaules. Le Christ se ressuscite, et il est normal qu'il ressuscite ses frères et sœurs. Le symbole de Saint Athanase enseigne déjà « Omnes homines resurgere habent ». Le 4e concile de Latran déclare contre les albigeois « Omnes homines cum suis propriis raison de gêne, corporibus. Tous les hommes, avec leur propre corps, ressusciteront. C'est ce que déclare aussi le deuxième concile de Lyon, dans les années 1400, et Benoît XII. Jésus enseigne expressément l'universalité de la résurrection. Tous les morts. Jean, chapitre 5. Saint Paul affirme sa foi en disant qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. Actes des apôtres, chapitre 24, verset 15. Actes des apôtres, chapitre 24, « Je crois à tout ce qu'il y a dans la loi et à tout ce qui est écrit dans les prophètes, mon espérance en Dieu et en ce qu'ils attendent eux-mêmes. Ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une résurrection pour les justes et pour les pécheurs. C'est pourquoi moi aussi je m'efforce de garder une conscience irréprochable en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. » Donc c'est clair, saint Paul l'enseigne. Le magistère de l'Église, c'est l'enseignement de tous les successeurs de Pierre, officiels et publics, réunis parfois dans ce qu'on appelle des catéchismes ou des encycliques solennelles. C'est ce qu'on appelle le dogme, les vérités magistérielles solennelles. C'est le magistère, l'enseignement. Vous avez ces vérités parfois très précisément dans la Sainte Écriture, mais d'autres fois, elles sont tirées de la Sainte Écriture par l'enseignement de l'Église. Par exemple, le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible, mais il est quand même à croire de foi divine, parce que de nombreuses fois dans les Évangiles, Père, Fils et Saint-Esprit sont affirmés. Et Jésus utilise Père, le Fils de l'homme, recevait l'Esprit Saint, et donc c'est bien Jésus lui-même dans saint Marc qui dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est pas au IVe siècle qu'on a rajouté dans l'évangile de saint Marc cette phrase. Et donc ici, saint Paul nous enseigne très clairement, sans besoin d'encyclique et sans besoin d'un catéchisme universel, la résurrection des pécheurs. Saint Jean aussi dit d'une manière générale que les morts reviendront de la mort et de l'empire des morts pour être jugés selon leurs œuvres. Les pères, Apocalypse chapitre 20, verset 12-14. Apocalypse verset 20, 12-14. C'est impressionnant. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur le trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent sans laisser de traces.